La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Comment quitter le pouvoir quand on a dirigé son pays sans partage pendant des décennies? C'est une question tout à fait d'actualité. Elle se pose par exemple en Russie, à Vladimir Poutine, en Algérie, avec Abdelaziz Bouteflika, ou en Turquie, avec Recep Tayyip Erdogan. Autant de pays où l'on scrute de près ce qui est en train de se passer au Kazakhstan.
Oui, le Kazakhstan, pays d'Asie centrale ex-soviétique, sur lequel a régné depuis l'indépendance en 1991 un seul homme, Nursultan Nazarbayev. L'ancien chef du parti communiste local qui était devenu président et qui est au pouvoir depuis maintenant 29 ans. Et bien hier, il a annoncé à la chaîne de télévision nationale Khabar qu'il quitte ses fonctions à effet immédiat. Cette démission du dernier des grands autocrates de l'ère post-soviétique, comme le décrit CNN, n'a pas franchement surpris, à vrai dire, ceux qui suivent de près la politique dans cette région du monde, l'Asie centrale, qui vit dans la sphère d'influence russe. À Moscou, le site d'info Rosbalt n'est pas étonné donc par le fait que Nazarbayev, que l'on sait malade et âgé de 78 ans, s'efface pour mieux organiser sa succession politique. Depuis un an déjà, les Kazakhs s'attendaient à des élections anticipées où on leur désignerait un héritier à élire. Il y a un non, justement, rappelle Rosbalt, Nazarbayev limogeait tout son gouvernement, lui reprochant de mauvais résultats économiques dans un pays à qui la manne gazière et pétrolière a permis, et c'est assez rare dans la région pour être remarqué, a permis l'émergence d'une vraie classe moyenne. Il y a un an, enfin, nous rappelle la radio kazakh financée par les Américains, Azatik, le vieux président kazakh se faisait nommer à vie à la tête du conseil de sécurité de son pays. Et c'était clairement une manière de rester aux commandes du Kazakhstan, même le jour où il quitterait le palais présidentiel. Ce jour est donc arrivé hier et l'on a mieux compris que la démission de Nazarbayev n'est en fait qu'un trompe-l'œil. Au-delà du Conseil de sécurité, il conserve également et jusqu'à sa mort le statut honorifique de père de la nation. Il garde aussi la main sur le parti présidentiel Nour Otan, un quasi-parti unique. En fait, écrit l'éditorialiste Leonid Berchitsky dans Bloomberg, Nursultan Nazarbayev montre à son vieil ami et allié russe Vladimir Poutine comment rester au pouvoir tout en le quittant. Jusque-là, poursuit Berchitsky, les présidents d'ex-URSS ne démissionnaient pas, ils mouraient en fonction, comme l'Ouzbek Karimov ou le Turkmen Niazov, en laissant derrière eux des régimes aux allures d'anciennes monarchies orientales. Ou bien ils étaient chassés du pouvoir par le peuple révolutionnaire, comme c'est arrivé aux deux présidents kirghizes, Akayev et Bakiev.
Nursultan Nazarbayev, aujourd'hui, montre donc une autre transition possible.
Oui, une voie pas forcément plus démocratique, hein, mais en tout cas, c'est vrai, un modèle de transition progressif salué par la radio Azatik, laquelle nous explique que l'intérêt pour le président, c'est que sa famille sera protégée après sa mort. Elle qui s'est appropriée au cours des trois dernières décennies l'essentiel des richesses du pays. Et rien que ça, ça pourrait donner des idées à d'autres présidents qui ont les mêmes problématiques de succession à travers la planète. À commencer donc par Vladimir Poutine, dont la question de l'après 2024 commence déjà à se poser très sérieusement dans les coulisses du pouvoir russe. Leonid Berchitsky, dans son analyse pour Bloomberg, rappelle que le Kazakh Nazarbayev a toujours été vu comme un professeur par Poutine. Sa dernière leçon pourrait donc être celle-ci, comment quitter le pouvoir sans le quitter vraiment et sans laisser un grand vide derrière soi.
Et puis en Italie, le vice-président du Conseil, Matteo Salvini, est à nouveau accusé de faire séquestrer des migrants à bord d'un navire humanitaire.
Oui, cette fois le navire s'appelle le Mare Ionio. Il a été arraisonné par les gardes-côtes italiens hier sur ordre du ministre de l'Intérieur Salvini, alors que son équipage et les 48 migrants secourus au large de la Libye demandaient à pouvoir débarquer en urgence sur l'île de Lampedusa. Dans cette vidéo publiée par La Repubblica, on entend l'ordre donné au commandant du Mare Ionio de couper les moteurs, l'interdiction de s'approcher des côtes italiennes. Ni l'équipage ni les migrants ne poseront un pied en Italie, vociférait au même moment un Matteo Salvini qui exhibait, pour soutenir ses ordres, une soi-disant directive qu'il venait de signer et qui criminalise les ONG d'aide aux migrants accusés de menacer la sécurité de l'Italie en favorisant l'entrée d'immigrés clandestins sur le territoire national. Depuis hier, le Mare Ionio et tout le monde à bord sont donc escortés par les douaniers qui les empêchent d'accoster et qui mènent officiellement des vérifications à bord. Mais déjà, cette nouvelle affaire, cette nouvelle démonstration d'intransigeance de la part de l'extrémiste de droite Salvini en matière d'immigration, elle en rappelle une autre à la Stampa, la mise en quarantaine en août dernier en Sicile du Diciotti, un autre navire humanitaire qui avait été bloqué 5 jours à quai. Ce mercredi, il faut le rappeler, le Sénat italien doit dire si s'il autorise ou non la levée de l'immunité parlementaire de Salvini qui pourrait être jugée dans ce dossier Diciotti pour abus de pouvoir et séquestration. Il y a peu de chances que le mouvement 5 étoiles lâche son allié de gouvernement dans cette affaire et vote la levée de l'immunité. Matteo Salvini semble donc hors de danger pour cette fois-ci et son nouveau coup d'éclat avec le Marigno illustre bien, selon la Stampa, l'impunité provocatrice dont joue l'homme fort de la Lega et du gouvernement italien. À ce propos, dans Il Fatto Quotidiano, la sociologue et juriste Isis Gergi signe une analyse sans concession où elle examine le pouvoir autoritaire populiste que Salvini installe en Italie à la lumière de ce que le politologue allemand Ernst Frankl écrivait en 1941 sur le régime politique nazi. Cet état dual où la façade démocratique est assurée par le maintien d'un état normatif, mais où se développe en arrière-plan et souvent contre l'état normatif, un état discrétionnaire qui crée ses propres règles et pratiques autoritaires et liberticides. En signant lundi sa directive contre les ONG d'aide aux migrants, Salvini consolide un peu plus son état discrétionnaire à lui, écrit Isis Gergi. Mais la directive, précise la juriste, n'est en fait qu'une circulaire qui n'a pas valeur de loi et qui ne doit pas être appliquée par les fonctionnaires italiens car elle contredit l'esprit des vraies lois du pays. En fait, conclut Gergi, à l'heure de l'hypermodernité, Salvini ajoute un troisième état à l'état dual de Frankl, l'état réseau social ou état des médias de masse, celui qui permet de communiquer l'arbitraire de ses règles au plus grand nombre pour asseoir l'illusion juridique.
Merci beaucoup Camille Magnat. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.